E-Radio, l'invité de la rédaction, Romain Lostis.
Merci de nous retrouver sur E-Radio pour cette interview avec Valérie Drézé-Humez, représentante de la Commission européenne en France. Bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour.
À l'approche des élections européennes de juin prochain, vous réalisez une tournée des territoires à travers donc toute la France et vous étiez notamment présente dans le Grand Est pendant ce mois de février. Est-ce que vous, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quels sont les objectifs de cette tournée des territoires et en quoi consiste-t-elle concrètement ?
Eh bien, comme vous l'avez dit, nous sommes maintenant à presque 100 jours des élections européennes et c'est important de parler d'Europe dans ces élections. Ça paraît évident avec leur nom, mais en fait, en pratique, ça n'est pas forcément le cas, quels que soient les États membres. Et donc, je tenais vraiment à aller sur le terrain pour montrer à l'ensemble des citoyens français, hein, où qu'ils soient, comment l'Europe intervient dans leur vie quotidienne, leur apporte des réponses, des solutions. Et je prends souvent le biais des fonds européens qui vont permettre de cofinancer un certain nombre de projets qui vont aider à développer les territoires. Alors ça, c'est l'effet levier, hein, qui est intéressant à noter parce que ça permet vraiment de mettre en avant comment des objectifs qui sont décidés au niveau européen par l'ensemble des 27 se traduisent très concrètement dans la vie quotidienne des Français en l'occurrence. Et c'est aussi un moyen de mettre sous le feu des projecteurs les porteurs de ces projets. Parce que sur le territoire, souvent, on ne sait pas forcément où sont les projets et certains vont peut-être découvrir que certaines de leurs connaissances sont activement porteurs d'une idée qui a pu germer et pu naître grâce à l'apport de fonds européens. Donc voilà, je parcours le territoire français pour montrer cette présence, cette réalité européenne sur le terrain dans la vie des Françaises et des Français. Et porté par des élus, porté par ces animateurs de projets qui font que les territoires vont se développer sur le plan économique, sur le plan social, et qui vont permettre d'avoir à la fois une conjonction européenne très visible et surtout d'apporter des solutions.
Alors, au total, la région Grand Est bénéficie de plus d'un milliard d'euros de financement européen pour la période 2021-2027. Qu'est-ce que ça représente ? C'est beaucoup comme budget ou qu'est-ce que ça permet de faire concrètement sur le terrain ?
Ah, ça permet de faire énormément de choses, hein. Dans l'ensemble des régions françaises, la région Grand Est, donc avec plus de 1,4 milliard, touche à une possibilité d'utiliser beaucoup de fonds. C'est des fonds qui sont d'abord de diverses natures, hein, qui vont permettre de répondre à diverses problématiques. Ça peut être la transition environnementale et climatique, avec des aspects très très globaux ou très précis, par exemple aider à rénover un habitat personnel, mais aussi à soutenir une grande industrie pour qu'elle prenne aussi ce virage de la transition ou complète les actions qu'elle avait déjà mises en route. On a des fonds qui vont toucher donc l'innovation, la recherche, des fonds traditionnellement de développement régional, des fonds sociaux, aussi l'apport du plan de relance européen qui était 800 milliards qui ont été mis sur la table après la crise du Covid. Hein, c'était vraiment l'idée de fournir un soutien très concret pour accompagner l'ensemble des transitions numériques, environnementales qui doivent être mises en place et éviter cet effet de creux au niveau économique qu'on a pu avoir après la crise financière de 2008. Donc le plan de relance européen, comme on l'appelle Next Gen EU, 800 milliards pour la première fois, un endettement commun à 27 États membres, hein, ce qui est quand même une grande nouveauté et un grand pouvoir, surtout sur les marchés, pour lever des fonds et d'apporter des solutions et faire qu'aujourd'hui, la Commission a fait un bilan à mi-parcours de ce plan de relance et a pu montrer que le PIB européen a augmenté et surtout n'a pas descendu, ce qu'on avait vu après la crise financière de 2008. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et la variété des fonds et des moyens va permettre d'irriguer d'abord l'ensemble des territoires qui sont plus en ville ou plus en ruralité, ce qui est important à rappeler, et aussi des projets de différentes natures et de différentes tailles. J'ai vu par exemple dans le Grand Est des projets de LEADER, donc sont des projets de soutien à la ruralité, qui sont des projets entre guillemets de petite taille, on a vu des projets de 10, 15, 20 000 euros, mais qui sont significatifs dans le fait de créer une nouvelle activité ou pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de parlant. J'ai visité une fromagerie qui permet d'utiliser l'aide d'une exploitation agricole. Ils ont reçu 2-3 financements leaders et ça permet de développer l'activité, d'irriguer sur le territoire à la fois parce que ça donne un exemple à d'autres hein, qui avaient peut-être quelques craintes à se lancer dans une nouvelle activité et fédérer d'autres partenaires le long de la chaîne de commercialisation de ces fromages. Donc, une grande variété des projets et donc potentiellement une solution pour tous qui ont dans leur tête des envies de développement sur le territoire, de trouver une solution européenne.
Alors vous avez décrit une grande variété de projets que vous êtes allé observer concrètement sur le terrain pendant cette tournée des territoires. Vous avez cité le cas de la fromagerie. Il y avait aussi des projets plus dans le domaine de la santé ou de l'innovation. Je crois savoir que vous êtes allé au CHU de Reims ou à Nancy. Parmi toute cette variété de projets, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit dans ce domaine, il y a un vrai besoin pour davantage d'aide européenne?
Un peu difficile de choisir avec votre question, parce qu'effectivement, j'avais essayé d'avoir un volet de projets très différents. Une dimension peut-être que j'ai déjà mentionnée, c'est la dimension des petits projets en ruralité. On en parle d'autant plus actuellement avec les difficultés dans le secteur agricole et le salon de l'agriculture qui est encore ouvert à Paris. De voir l'impact sur la fromagerie, mais aussi j'ai été visiter Emplette et Cagette, qui était un projet qui a non seulement un titre qui est très parlant, mais surtout ce qui était intéressant, c'est qu'il se concentre sur le fait d'apporter un soutien à des populations en précarité alimentaire avec une bonne alimentation. Donc, ce que je trouvais intéressant dans ce projet, c'est d'abord cette dimension sociale, cette dimension d'inclusion sur un territoire très concrètement, d'amener ces personnes à une éducation alimentaire et de la santé, et surtout à eux-mêmes être les acteurs de leur changement, puisque c'est eux qui vont rechercher des négocier des contrats de fourniture de certains produits. Et j'ai trouvé que c'était très emblématique, parce qu'on parle effectivement, entre guillemets, de projets avec un montant plus limité, mais un potentiel d'essaimage très important et de changer la vie de ces personnes. Donc là, et ça, pour moi, c'est extrêmement emblématique de l'Europe.
Là, on parle d'une association, donc Emplette et Cagette, qui a pu postuler et obtenir un financement européen pour continuer à venir en aide aux plus précaires, c'est ça?
Tout à fait. Aux plus précaires et surtout leur apporter aussi finalement leur ouvrir cette opportunité d'une alimentation saine. On n'est pas juste dans vous avez besoin, on vous aide, on vous donne des produits. Il y a toute une éducation à la santé et en plus de les faire participer à la construction des contrats pour obtenir certains produits au meilleur prix. Donc ils sont en plus très actifs.
Ça, par exemple, le fait de savoir qu'une association peut bénéficier de financement européen pour réaliser ses activités, est-ce que vous observez quand vous vous déplacez, par exemple, dans cette tournée des territoires, les gens sont au courant de ça? Les acteurs que vous avez pu rencontrer savent que les assos peuvent aussi bénéficier de cofinancement européen?
Pas toujours, je dirais d'une manière générale, déjà la présence et l'utilisation de disponibilité de fonds européens est connue de manière variable. C'est aussi pour ça que je fais cette tournée et pour montrer justement cette réalité. Donc il faut vraiment le faire connaître et je pense qu'en mettant justement un projet sous les feux de la rampe, hein, finalement, ça va être beaucoup plus parlant que de dire voilà, vous pouvez aller sur le site et voir l'ensemble des potentialités que vous pouvez utiliser. Ça veut dire en entendant parler d'autres qui sont passés par ces fonds européens, ça va donner des idées et j'essaie justement de visiter des projets de nature très différente pour à la fois quelqu'un dans une association, quelqu'un dans une PME puisse voir qu'il y a des solutions et différents types de projets qu'eux-mêmes peuvent aller rechercher.
Et si on s'intéresse maintenant du côté des bénéficiaires, pour prendre un autre exemple, j'ai vu que vous vous êtes rendu donc bien sûr à Reims, mais pour aussi aller auprès d'un autre projet. C'était un projet de chaufferie bas carbone, donc un peu plus environnemental ici, qui vise à pour le chauffage des habitations, à garantir que ce chauffage se fasse jusqu'à 90% via des énergies renouvelables. Tout ça, encore une fois, grâce à un financement européen. Est-ce que les habitants qui bénéficient de ce chauffage bas carbone sont au courant de cette contribution de l'argent européen dans ce projet?
Alors, je ne vais pas vous garantir que l'ensemble des habitants sont au courant, mais ce qui était intéressant à noter, c'est que précisément l'impact de ce financement européen, c'est de développer cette capacité d'utiliser les renouvelables, comme vous disiez, à près de 90%, mais surtout qu'il n'y ait pas de répercussion sur la facture énergétique des habitants bénéficiaires. Et ça, je crois que c'est un point d'autant plus important qu'on a beaucoup parlé à la fois de précarité énergétique et de difficulté à régler les factures énergétiques. Donc, pour eux, c'était vraiment un moyen d'avoir et cet investissement pour la transition environnementale et en même temps de que les bénéficiaires de l'énergie ne financent pas finalement eux-mêmes ces investissements. Donc là, c'est quelque chose qui a un double intérêt, je dirais, à la fois social, économique et environnemental.
Une action européenne qui est donc intéressante, y compris pour lutter contre la crise du logement qui se fait de plus en plus présente. Maintenant, vous, comment, en tant que représentante de la Commission européenne en France, quel rôle pouvez-vous jouer tout au long de l'année pour rendre plus visible cette action européenne? Je veux dire, en dehors, par exemple, de cette tournée des territoires. Est-ce que c'est un événement exceptionnel que vous réalisez ou bien vous contribuez à rendre plus visible cette action européenne?
D'une manière générale, on le fait évidemment tout au long de l'année. Lorsque j'ai pris moi-même ce poste, je voulais vraiment être sur le terrain. En amont des élections, il y a eu une accélération par définition et beaucoup plus de visites. Mais l'idée d'aller sur le terrain et de montrer cette réalité européenne dans les différentes régions, c'est quelque chose qui existe déjà. On le met en avant aussi de manière générale par nos réseaux sociaux, par exemple, puisque à la fois on couvre ces visites, mais on met en avant beaucoup de projets tout au long de l'année. Je crois que c'est vraiment le meilleur moyen, en ayant les bénéficiaires qui prennent la parole, de montrer l'intervention concrète de l'Europe, l'Europe qui apporte des solutions, et ceux finalement qui en bénéficient en parlent le mieux. Je crois que c'est une évidence, mais c'est beaucoup plus puissant, je crois, que juste, si je puis dire, une communication institutionnelle. On travaille aussi, et ça c'est très important, justement pour montrer cette Europe, c'est aussi être capable de parler de cette Europe, premièrement, et d'en parler correctement. Donc on fait beaucoup d'actions de pédagogie, que ce soit en étant présents nous-mêmes directement ou par le biais de nos relais sur le terrain. Il y a en France 49 centres Europe Direct qui sont les premiers guichets d'Europe disponibles dans toutes les régions. Donc j'invite chacun à se renseigner pour trouver le centre Europe Direct le plus proche de chez lui, pour aller voir à la fois quelles informations ils peuvent obtenir ou des soutiens pour des projets que certains peuvent avoir. On fait aussi de la lutte contre la désinformation. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important et particulièrement dans un contexte préélectoral. On sait qu'il y a de la désinformation. Alors, ça peut être juste un niveau de mauvaise information, mais ça peut être aussi vraiment de la manipulation. Donc, on travaille là-dessus. On a un produit qui s'appelle les décodeurs de l'Europe qui revient de manière plutôt humoristique sur certains poncifs que l'on entend beaucoup sur l'Europe, pour essayer de les démonter et de montrer la réalité européenne. Donc c'est aussi des éléments qui sont disponibles sur le site de la représentation et que chacun peut consulter. Donc c'est un parcours au long cours pour montrer à la fois parler d'Europe, en parler correctement et de manière illustrée avec des projets sur le terrain.
Et sur le terrain, justement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes suffisamment soutenu, accompagné par les autorités des territoires? Parce que vous mentionniez plutôt le plan de relance européen décliné dans le territoire français. On le voit beaucoup sur des chantiers ou des travaux énergétiques, par exemple, des pancartes, souvent indiquant que ces chantiers ont été réalisés grâce à l'argent du plan de relance. On voit rarement mis de manière évidente le drapeau européen ou le fait que ce plan de relance, avant d'être français, il a aussi été décidé au niveau européen. Est-ce qu'on ne voit pas là, finalement, un reflet que parfois rendre plus visible l'Europe se fait au détriment de l'action de l'État français?
Alors par définition, ça doit être un travail de chacun, je dirais, à la fois à l'échelon européen, à l'échelon national et puis régional, avec aussi les élus, notamment en matière de fonds de développement régional, le FEDER, où on voit aussi beaucoup de panneaux qui jalonnent la France, qui montrent que des fonds européens ont été investis. Je crois que c'est à chacun de jouer son rôle. Ça permet de montrer cette réalité, et nous sommes aussi vigilants à la fois sous l'angle, je dirais, purement juridique, puisqu'il y a des obligations de communication avec toutes les autorités de manière générale, mais aussi sur le terrain, si on note une visibilité limitée, on va dire, de certaines mentions, on va le faire savoir. Mais voilà, on est très attentif à cette dimension. Mais c'est important de rappeler que la communication sur l'Europe, c'est une chaîne de responsabilité. Hein, ce n'est pas uniquement les institutions européennes qui doivent en parler, et que ça doit être fait de concert avec les autorités qui sont, je parlais de FEDER, donc les autorités régionales sont chargées de l'instruction des dossiers. Donc on travaille à tous les niveaux, et sur le plan de relance aussi, effectivement, au niveau central, notamment avec le secrétariat général aux affaires européennes, pour assurer que la présence et la visibilité des fonds européens est bien assurée.
Valérie Dreza-Humez, vous le disiez plus tôt, nous avons franchi la barre des 100 jours avant les élections européennes. Vous, en tant que représentante de la Commission européenne, en France, à quoi va se consacrer vos priorités pendant les 3 prochains mois avant le scrutin?
Eh ben, toujours continuer à assurer qu'on parle bien d'Europe dans ces élections. Et continuer sur ces fondamentaux que j'ai mentionnés précédemment, parler d'Europe, faire de la pédagogie, montrer l'Europe en action, une Europe des solutions, et travailler contre la désinformation, et surtout aussi inviter chacun à s'exprimer, à voter. On travaille aussi beaucoup avec des partenaires et des associations pour notamment amener les jeunes et les primo-votants en particulier à saisir cette opportunité de s'exprimer et de pouvoir influer sur ce que sera l'Europe à l'avenir, et faire entendre leur voix pour que leurs préoccupations soient aussi reflétées dans le sens qui les intéresse, et ne pas laisser l'agenda européen aux mains d'autres personnes.
Et peut-être pour terminer, si certains de nos auditeurs veulent en savoir un peu plus sur comment demander à toucher, par exemple, une partie de ces financements européens pour les aider à réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, vers qui se tourner, où trouver les informations? Je sais que vous parliez du réseau des Europe Direct.
Tout à fait. C'est le premier niveau que je dirais, parce que c'est le plus proche et où chacun peut rencontrer une personne pour en parler. Je crois que c'est beaucoup plus simple. Sinon, vous pouvez aussi aller sur le site Europa de la Commission européenne, et vous avez un onglet qui dit « Vous cherchez des financements » et qui va vous aiguiller selon le type de financement et les projets que vous avez en tête.
Très bien. En tout cas, moi, je vous dis un très grand merci, Valérie Dreza-Humez, pour avoir participé en ligne à cette émission sur Euradio. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.